Bon, eh bien, bonsoir à chacune et à chacun. Je vais peut-être commencer par un petit rappel administratif pour vous dire que les personnes qui souhaitent recevoir une attestation de participation au cycle de conférences comme chaque année, je vous propose de venir inscrire à la fin de la conférence, puisqu'on est à l'avant-dernière conférence de cette année, votre nom sur une feuille chez moi et de pouvoir les retirer lors de la dernière conférence. Elles seront prêtes et vous pourrez les retirer à ce moment-là. Les personnes qui n'auront pas pu le faire, on l'enverra par courrier, mais dans la mesure où on peut vous les donner directement, c'est peut-être le plus simple. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, un côté peut-être un peu plus festif, j'avais annoncé lors de notre dernière conférence que j'essayais de mettre en place cette année un verre des participants pour clôturer le cycle de conférences. Et donc, je peux vous confirmer que ça va avoir lieu donc à la dernière conférence à 9h quand la conférence se termine. Tous les conférenciers seront réinvités. Bon, selon leur disponibilité, ils pourront venir ou non. Mais vous êtes cordialement invités et les bienvenus. J'enverrai un mail à tout le monde parce que vous comprenez que je dois un peu prévoir le nombre de personnes qui sera présente en fonction de ce qu'il nous faudra pour vous recevoir. Et donc, si vous voulez bien confirmer votre présence, ça nous permettra de nous organiser. Ça, pour la dernière conférence du cycle de cette année. Alors, Philippe Hellebois, qui ne rate jamais une conférence, est plaqué au sol pour raison d'espace aérien fermé. Et donc, il ne peut pas nous rejoindre ce soir, mais sera là lors de la dernière conférence. Et je me propose de continuer, au fond, ce que j'avais commencé il y a deux conférences, c'est-à-dire essayer d'aborder, au fond, pour moi, c'est un premier exercice aussi, ce grave du désir sur lequel on avait buté à un certain moment dans le cycle, et de le faire très doucement, pas à pas, à la mesure de ce que je peux, au fond, vous en retransmettre. Et pour ce faire, avant de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, je vais prendre 10 minutes pour avancer un tout petit peu. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux conférences. J'avais mis en place le tout départ du grave du désir en commentant les deux premières flèches. La flèche horizontale qui est celle de la chaîne signifiante, c'est pour ça qu'elle est notée SS', c'est la suite des signifiants. Et puis la flèche qui fait une boucle de rétroaction, qui au fond est aussi une, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que l'une des flèches parle du signifié et l'autre parle du signifiant, comme Ferdinand de Saussure avait abordé le rapport entre signifié et signifiant, rapport sur lequel Lacan était reparti au départ de son enseignement en inversant ce rapport de signifié-signifiant et en donnant la primauté au signifiant. Mais non, ce n'est pas deux flèches qui parlent du signifié-signifiant. Lacan précise bien dans son séminaire 5, où il aborde ce grave du désir, que c'est bien deux états du signifiant qu'il nous présente à travers ces deux flèches. La première flèche horizontale étant la flèche, au fond, du défilement de la parole qui prend un aspect linéaire dans le temps, c'est la suite des signifiants. C'est une chaîne qui peut être métonymique et c'est une chaîne qui, en soi, finalement, n'a pas un sens particulier. La deuxième flèche qui nous montre que dans l'effet d'après-coup d'une phrase, finalement, ou d'un dire d'un sujet, il y a un effet de rétroaction qui vient à un certain moment en ce point-ci, le point que Lacan appelle au départ le message, capitonner, il appelle ça le point de capiton, capitonner le sens du message. Donc tout ça, je l'avais un peu développé plus en détail la dernière fois. Et à l'occasion, il avait distingué aussi, c'est pour ça que j'avais esquissé, je remets la flèche ici, la flèche bêta-bêta-prime, en disant au fond ce qui surgit de sens d'un message et qui peut à l'occasion faire surprise dans le message d'un sujet, est très souvent court-circuité par ce qu'on appelle le langage commun et la parole vide, c'est-à-dire ce qui nous permet au fond de nous comprendre plus ou moins en général, tout ce qui est l'application, l'utilisation du code de la langue. Alors aujourd'hui, j'ai simplement un peu avancé dans ce séminaire 5 en me référant finalement à la fois suivante où Lacan, dans son séminaire, reprend le schéma. Il le reprend d'une façon un peu simplifiée, qui est la version au fond que je vous ai mis ici à droite. Donc il reprend toujours les deux flèches des deux états du signifiant. Je vais en reparler maintenant. Il y a toujours, au fond, dans le premier croisement, ce grand autre qu'il symbolise par A, et dans le deuxième croisement, à la fin de la rétroaction, le M qui vient signifier un message, le message, au fond, qui aura été entendu. Et il marque trois temps, finalement, dans le croisement de ces deux chemins du signifiant, que j'ai noté 1, 2, 3, temps 1, temps 2, 33, et dont je vais vous parler maintenant. Donc, vous trouverez ça de la page 86 à la page 92 du séminaire 5 de Lacan. Et au fond, il se demande ce qu'est la demande. Il repart de cette question-là. Qu'est-ce qu'une demande adressée, la demande qui passe évidemment par le signifiant. Et il dit, c'est ce qui, du besoin, passe au moyen du signifiant à l'autre. Elle est si relative à l'autre, donc si en lien à l'autre, que l'autre se trouve tout de suite en posture. De repousser la demande du sujet, alors qu'en évoquant le besoin, donc si le sujet évoque le besoin qu'il fait passer par sa demande, l'autre, il commence déjà à reconnaître ce besoin. Donc, du côté de la demande, la réaction de l'autre, elle est tellement relative à l'autre, cette demande adressée, que sa première réponse est de la repousser, tandis que si cet autre envoie, j'ai envie de dire, le versant du besoin, il le reconnaît et ça lui apporte une satisfaction essentielle, dit Lacan. Le mécanisme de la demande fait que l'autre, par nature, s'y oppose. On pourrait dire que la demande exige par nature, nous dit-il, pour être soutenue comme une demande qu'on s'y oppose. Ça, je trouve ça assez parlant, notamment en ce qui concerne la position de l'analyste. C'est à l'autre, au-delà de celui qui est en face de vous, que la réponse à la demande, l'accord à la demande, est en fin de compte déféré. Donc c'est à un autre qui est au-delà de la personne à qui on adresse la demande. C'est ça qu'il faut entendre, à un autre qui est au-delà de la personne à qui on adresse la demande, que la réponse à cette demande est en fin de compte déférée. Donc Lacan se dit que la question est le rapport entre le signifiant, puisque la demande passe par le signifiant, et le désir. Il donne d'ailleurs à cet égard-là une histoire qui vaut ce qu'elle vaut, dit-il, mais qui une petite anecdote et qui pointe bien cet écart entre la demande qui passe par le signifiant et le désir. Il replace l'histoire dans le cadre de la société viennoise du début du XIXe siècle. C'est l'histoire qui est appelée l'histoire du saumon mayonnaise. Elle est connue sous ce titre-là. D'un mendiant qui demandait, faisait l'aumône pour recevoir une petite pièce. Et la personne donne l'argent et retrouve le mendiant quelque temps après dans une brasserie se commandant un saumon mayonnaise, c'est-à-dire pas du tout ce pourquoi il avait dit qu'il demandait l'argent. Et le mendiant répond sous forme de jeu de mots, c'est incroyable, quand je n'ai pas d'argent, je ne peux pas profiter du saumon mayonnaise, et quand j'ai de l'argent, je ne peux pas profiter non plus du saumon mayonnaise. Ce qui marque tout l'écart, comme nous dit Lacan, entre la demande, le signifiant et le désir. Alors, Lacan se pose la question de, au fond, qu'est-ce qui décolle la communication de la demande par rapport à son accès à la satisfaction ? Et c'est là qu'on entre, au fond, dans le graphe simplifié que j'ai donné ici. Il y a un premier temps, ce temps qui va, au fond, du point de départ de la flèche qui fait rétroaction jusqu'à ce point de croisement du grand autre, où quelque chose s'exprime qui part du sujet et dont nous faisons la ligne de son besoin. Donc, au fond, le sujet, le je, exprime un besoin. Et ce besoin passe par la parole, par la demande. Elle se termine ici en A, en grand A, nous dit Lacan, là où elle croise aussi la courbe de ce que nous avons isolé comme le discours. Donc c'est la courbe horizontale, la chaîne signifiante dont je vous ai parlé la dernière fois. Et donc à ce croisement, qui est en fait la mobilisation du matériel préexistant, nous dit Lacan. C'est-à-dire, cette chaîne signifiante, elle mobilise au fond, et à ce moment-là, il parle, en fait, il part de la situation du jeune enfant qui commence à manier la langue et à adresser des demandes à son référent, sa mère, si c'est sa mère. Et il nous dit, au fond, il y a une courbe où le jeune enfant va mobiliser le peu de matériel de mots qu'il appréhende. C'est la chaîne signifiante. Et puis, il y a une courbe qui, en même temps, se met en route, qui est l'expression du besoin, là où il dit « je », dans ce temps un qu'il adresse à l'autre, et ça va se rencontrer en ce point du grand autre. Et donc, nous dit Lacan, c'est important de se rendre compte que cela se déroule sur deux plans, celui de l'intention, donc l'expression du besoin adressé à une personne, à un autre, et celui du signifiant. La chaîne des signifiants. Progression en même temps jusqu'au croisement A du grand autre et M du message, puisque vous vous souvenez, on a parlé de l'effet rétroactif de la phrase. Ce qui a commencé comme besoin s'appelle la demande à partir de ce moment-là, tandis que le signifiant se bouclera sur ce qui achève le sens de la demande et qui constitue le message qu'évoque l'autre. Donc, au fond, Lacan nous dit, dans le temps 2, donc le temps où la boucle va aller faire son point de capiton et qu'il y a constitution d'un message qui va se former, dans ce temps 2-là, il y a, au fond, le besoin qui se transforme en demande, et le signifiant qui va se boucler sur le sens que l'autre va donner à la demande. C'est-à-dire, on va y venir sur la réponse qu'il va y faire à cette demande et le sens qu'il va y mettre. Donc, nous dit Lacan, il y a détermination dans le même temps du sens de la demande et de l'autre comme grand autre, c'est-à-dire l'autre qui va fixer un sens. Au fond, je me disais, en rencontrant cette phrase dans le texte, qu'on aurait pu appeler le petit exposé que je fais ici « La demande en fondement de l'exercice premier du signifiant dans l'expression du désir ». Lacan nous dit qu'il ne faut surtout pas confondre la demande et la question de la satisfaction du besoin. Ce n'est pas la même chose, hein, puisque donc il y a un besoin qui passe par la parole et qui se fait demande. La demande et la satisfaction du besoin ne sont surtout pas à superposer et à confondre, du fait même que le besoin qui s'exprime va passer par le signifiant et donc produire un décalage du fait que ce besoin passe par les mots. Il y a un décalage entre le mot qui dit et le besoin en tant que tel. Et que donc ce qui est signifié à travers la parole est donc déjà au-delà du besoin brut comme tel. Au troisième temps, une fois que le message, par l'effet de rétroaction, a pris forme, a pris sens, quelque chose, nous dit Lacan, correspond à l'apparition, c'est le terme qu'il emploie, l'apparition miraculeuse, pleinement satisfaisante de la satisfaction chez l'autre, de ce message nouveau qui a été créé. Et donc, il se place, il le dit dans son séminaire, dans le cas idéal de ce qu'on appelle les bonnes mères, puisqu'il, je vous rappelle qu'il passe, il part de la question du jeune enfant qui adresse un message à l'adulte, et qu'au fond, à ce moment-là, quand l'intuition du message correspond au fond à la formulation via le message du besoin, c'est-à-dire qu'on est en présence de ce qu'on appellerait une bonne mère, eh bien, il y a une satisfaction chez l'autre, chez ce grand autre, du message qui a été créé ainsi par l'autre. Et donc l'autre, ce grand autre, il a un plaisir de l'usage du signifiant. Au fond, c'est dire autrement ce qu'on avait déjà dit à d'autres années, que dans le sens que vous donnez ou que chacun donne à un message, il y a un plaisir et le désir qui est impliqué du sens qu'on donne au message que l'on reçoit. Donc, dans la réponse à la demande et dans la demande elle-même, il y a quelque chose d'original qui complexifie et transforme le besoin, qui le met sur le plan de ce que nous appellerons à partir de ce moment-là le désir. Donc on voit vraiment ici tout le décalage entre besoin, demande, désir, par l'entremise du jeu du signifiant. Le désir est défini par un décalage essentiel dans l'ordre de la direction imaginaire du besoin. Donc on se décale du plan imaginaire par rapport à ce besoin, besoin que la demande introduit dans l'ordre symbolique. Je trouvais cette phrase un peu compliquée, mais au fond, il suffit de comprendre que du fait que le besoin passe par la parole, on est dans l'ordre symbolique. Hein. Et donc, le plaisir du signifiant, par exemple, Lacan nous rappelle le travail de Freud sur les jeux de mots, les mots d'esprit, vient de ce que Freud nomme la surprise. La surprise qui survient dans les formations de l'inconscient. Et cette surprise, elle est consubstantielle, nous dit-il, du désir, pour autant qu'il se passe au niveau de l'inconscient. Alors je vais en terminer là, mais simplement, cette surprise dans les formations de l'inconscient, et qui au fond est consubstantielle du désir, Lacan nous dit qu'il ne s'agit pas... De la réponse au fond au désir hein, qui se répète infiniment par exemple chez le jeune enfant et qui dans le concret peuvent recevoir une réponse ses demandes et ses désirs, mais qu'il s'agit bien de quelque chose qui au niveau de l'inconscient met en mouvement notre désir. Et que de ce désir-là, ce sont les surprises dans les formations de l'inconscient qui vont pouvoir, au fond, nous permettre de voir la partie immergée de cet iceberg. Voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Robert, qui est psychanalyste à Bruxelles et à Braine-le-Comte. Elle est également responsable thérapeutique au Courtil 15 à Tournai dans le site du Courtil qui se trouve près de la frontière à l'Ers Nord et elle est membre de l'école de la cause freudienne. Véronique Robert va nous parler aujourd'hui des chapitres 23 à 25 du séminaire, trois chapitres et pas n'importe lesquels, sous le titre... Alors, le titre précis, il y a désir, jouissance et un troisième terme, angoisse. Voilà. Je vous cède la parole.
Ah d'accord, ça sert le micro, je ne savais pas. Je vais commencer d'abord par reprendre un petit point de votre exposé, puisque vous parliez de la demande, et que dans à la page 414 et à la page 415 du séminaire Le Transfert, Lacan parle de la demande. Et ça rejoint tout à fait ce que vous avez développé. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la demande n'est que demande d'être entendue. Et d'être entendue, dit-il, pour rien. Et c'est ce pour rien, c'est dans ce pour rien qu'il y a la place du désir. Je trouve que ça fait écho avec la réponse à donner à la demande. C'est-à-dire, c'est une demande d'être entendu pour rien. Donc, ne pas répondre à la demande, simplement l'entendre. Enfin bon, voilà, je voulais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Alors, moi je vais suivre, j'ai lu les trois chapitres et je vais tâcher de suivre un peu le fil de Lacan dans ces trois chapitres. Il me semble qu'il y a une question qui traverse ces trois chapitres qu'on m'a proposé de lire avec vous. C'est la question de la place de l'analyste dans le transfert. Où l'analyser situe-t-il l'analyste ? Où l'analyste doit-il être pour lui répondre convenablement ? Bon, ben là aussi, ça rejoint ce que vous avez développé. Il n'y a pas de coïncidence entre ce qu'est l'analyste pour l'analyser, au départ de l'analyse, et ce que l'analyse du transfert, au terme de l'analyse, nous permettra de dévoiler au sujet de ce qu'est l'analyste pour l'analyser. Et donc Lacan cherche à nous indiquer quelle est la place à occuper par un analyste. Voilà le fil, me semble-t-il, des trois chapitres. Alors, on a dit que l'analyste, donc dans la littérature analytique, il est souvent dit que l'analyste prend pour l'analyser la place de son idéal du moi. Lacan nous dit, c'est vrai. Et c'est faux. C'est vrai au sens que ça arrive, et donc il va donner des exemples, je vais vite y arriver, ces exemples. Et c'est faux au sens que ça n'épuise pas la question. Que l'analyste ne peut aucunement se satisfaire d'être en position d'idéal du moi du patient, même si à certains moments ça vaut la peine d'y rester. C'est ce qu'il va montrer par notamment sa petite vignette clinique à la fin du premier chapitre. Alors, l'analyste, en tant qu'il est analyste, face à son action, nous dit Lacan, doit avoir une juste aperception de son rapport à la fonction de l'idéal du moi. Donc il doit quand même avoir une petite idée de ce que c'est que l'idéal du moi. En tant qu'analyste. Et pour ce faire, il doit d'abord savoir qu'il... Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, qu'il n'est pas le seul analyste, qu'il fait partie d'un groupe d'analystes, qu'il fait partie d'un groupe analytique. Alors, ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas Lacan nous dit là, il ne développe pas, mais il nous dit là quelque chose, donc, parce qu'il s'appuie sur les réflexions de Freud, sur la, dans son texte Maçon Psychologie. Donc, il nous dit c'est important que l'analyste sache qu'il n'est pas le seul, qu'il n'est pas seul analyste. Ce n'est pas pour nous dire que l'action de l'analyste va dans le sens de faire comme les autres analystes. C'est d'être un membre du troupeau des analystes. Pas du tout. Parce que, nous verrons qu'il développe ça plus loin, que toute action qui a un lien ou qui est, qui a un lien avec le désir, toute action, et donc l'action, l'acte analytique, ça va justement contre le troupeau, contre, ça dérange la masse. Bon, mais quand même, c'est important que l'analyste sache qu'il n'est pas seul. Et qu'il s'interroge sur son rapport à l'idéal du moi. S'il ne fait pas cette réflexion, enfin s'il n'est pas au travail autour de cette question, eh bien c'est Lacan qui remarque ça dans la littérature analytique, il y a des analystes qui glissent de la position d'idéal du moi à la position de moi idéal et qui se proposent comme le moi idéal du patient, comme le moi réalisé, là où le patient devrait arriver à la fin de l'analyse. Alors, ça va ? C'est clair ? Bon. Alors, je vais directement partir des trois exemples cliniques proposés par Lacan dans le chapitre 23. Et je vais lire parce que je trouve que, voilà, ça vaut la peine de lire ça. Alors, donc page 397. Le moi idéal, donc il essaye de nous introduire à la différence entre l'idéal du moi et le moi idéal. Alors, le moi idéal, c'est le fils de famille, au volant de sa petite voiture de sport. Avec ça, il va vous faire voir du pays. Il va faire le malin, il va exercer son sens du risque, ce qui n'est point une mauvaise chose. Son goût du sport, comme on dit. Et tout va consister à savoir quel sens il donne à ce mot. Et si du sport, ça ne peut pas être aussi le défi à la règle. Je ne dis pas seulement du code de la route, mais aussi bien de la sécurité. Quoi qu'il en soit, c'est bien là le registre où il aura à se montrer ou à ne pas se montrer et à savoir comment il convient de se montrer plus fort que les autres, même si cela consiste à faire dire qu'il y va un peu fort. Le moi idéal, c'est ça. Je n'ouvre ici qu'une porte latérale, car ce que j'ai à dire, c'est le rapport à l'idéal du moi. Donc on voit le moi idéal, c'est le fils de famille dans sa petite voiture. C'est, je vais écrire ça au tableau, I de A. Donc ce que Lacan note comme étant image de petit A. Donc c'est l'idéal de moi, du moi. Donc c'est le sujet barré qui s'est auto-enveloppé dans sa petite voiture de sport. Qui est, bien sûr, la petite voiture de sport, le phallus imaginaire. Bon. Ça, j'y reviendrai. Mais alors, ce que Lacan veut nous dire, c'est le rapport du moi idéal avec l'idéal du moi. Donc, I de petit a, grand I de petit a. En effet, l'idéal du moi ne laisse pas tout seul et sans objet le moi idéal. Parce qu'après tout, dans telle occasion, pas dans toutes, si le gars se livre à ces exercices cabreux, c'est pourquoi, point d'interrogation, réponse, pour attraper une gamine. Est-ce tant pour attraper une gamine que pour la façon d'attraper la gamine? Le désir importe peut-être ici moins que la façon de le satisfaire. Et c'est bien en quoi et pourquoi, nous le savons, la gamine peut être tout à fait accessoire et même manquée. Je vais essayer par un petit schéma de vous montrer ça. Alors, attendez. Donc, l'image dans le miroir, I de A, c'est le fils de famille qui se montre habillé par le phallus imaginaire, sa voiture de sport. Ce fils de famille, bon, je vais peut-être quand même me noter, parce que... Voilà. Donc ici, si vous voulez, ça c'est la gamine, on pourrait dire. C'est la place de la gamine. On peut tout à fait s'en passer. Parce qu'on se satisfait de... Comment vais-je dire? De cette identification au moi idéal. Donc le moi... Le moi habillé, enfin le sujet, le fils de famille, habillé par son phallus imaginaire, sa voiture de sport. Là où il se montre. Là où il se montre, là où il paraît. Eh bien, la constitution de cette image-là, elle est déterminée par qui? Par l'idéal du moi, grand I de A, qui est le père. Alors. Ah oui, mais j'ai une ancienne édition. Excusez-moi. C'est vrai. Donc on voit que tant que le fils de famille est dans le rapport au moi idéal, il peut tout à fait se passer. De l'objet du désir qui est la gamine. C'est pas ça qui compte pour lui. Alors, donc ce après quoi le fils de famille court, c'est l'image et pas l'objet du désir. Hein? Voilà, attendez, je relis parce que. Donc c'est ce qui permet, donc cette image, ça permet que l'objet du désir soit élidé, qu'on puisse s'en passer. C'est la même chose, alors attendez, hein, j'avais sélectionné ce qu'il fallait que je vous lise. C'est la même chose pour Marie Chantal. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Voilà. Je trouve ça mignon. Pour changer de registre, si Marie Chantal, comme vous le savez, s'inscrit au Parti communiste, c'est pour faire chier père. Donc c'est exactement la même chose côté féminin. Hein? Donc l'image Marie Chantal est là. Eh bien, si elle s'inscrire au Parti communiste, si vous voulez, c'est le phallus imaginaire qui vient l'habiller et qui est strictement déterminé par le père, même si c'est pour être réprouvé par le père. Voilà. Je trouve une petite introduction suffisamment parlante pour un peu nous éclairer sur la question de l'idéal du moi et du moi idéal. Attendez, hein. Donc, le père, nous dit Lacan, est un signifiant, d'où la petite personne, mâle ou femelle, vient à se contempler sans trop de désavantages au volant de sa petite voiture ou en brandissant la carte du Parti communiste. Alors, il nous amène un autre cas. Celui d'une de ses patientes, que je vais vous lire aussi, parce que je trouve ça toujours très, très éclairant. Donc, la patiente de Lacan, voilà ce qu'il nous en dit. C'est une page plus loin. Disons qu'elle prend plus que des libertés avec les droits, sinon les devoirs du lien conjugal, et que, mon Dieu, quand elle a une liaison, elle sait en pousser les conséquences jusqu'au point le plus extrême de ce qu'une certaine limite sociale, celle du respect offert par le front de son mari, lui commande de respecter. Disons que c'est quelqu'un qui sait admirablement tenir et déployer les positions de son désir. Et j'aime mieux vous dire qu'avec le temps, elle a su à l'intérieur de sa famille, je veux dire sur son mari et sur d'aimables rejetons, maintenir tout à fait intact un champ de force, d'exigence strictement centré sur ses besoins libidinaux à elle. Qu'est-ce que, pendant tout un temps, je réalisais pour elle? Donc on voit bien la question de Lacan. Qu'est-ce que je réalisais pour elle? J'étais, dit-il, son idéal du moi. Pour autant que j'étais le point idéal où l'ordre se maintient. Et d'une façon d'autant plus exigée que c'est à partir de là que tout le désordre est possible. Bref, il ne s'agissait pas à cette époque que son analyste passe pour un immoraliste. Si j'avais eu la maladresse d'approuver tel de ses débordements, il aurait fait beau voir ce qui aurait résulté. Bien plus, ce qu'elle pouvait entrevoir de telle atypie de ma propre structure familiale ou des principes dans lesquels j'élevais ceux qui sont sous ma coupe n'était pas sans ouvrir pour elle toutes les profondeurs d'un abîme vite refermé. Ne croyez pas qu'il soit nécessaire que l'analyste offre effectivement, Dieu merci, toutes les images idéales que l'on se forme sur sa personne. Simplement, elle me signalait à chaque occasion tout ce dont, me concernant, elle ne voulait rien savoir. La seule chose véritablement importante, c'est la garantie qu'elle avait, vous pouvez m'en croire, que concernant sa propre personne, je ne broncherai pas. Que veut dire cette exigence de conformisme moral? Eh bien, à considérer la vraie dynamique des forces, je crois que la chose qui devait être maintenue en tous les cas à l'abri de tout thème de contestation, c'est qu'elle avait les plus jolis seins de la ville. Bon, je vais essayer, c'est non seulement amusant, mais c'est fort intéressant, je vais essayer un peu de aussi déployer. C'est à la toute fin du chapitre 23. Donc, cette patiente place l'analyste à cette place d'idéal du moi, donc du père qui pourrait la juger, mais aussi du père qui maintient un point d'ordre, un point à partir de quoi tout le désordre peut être permis. Enfin, non, tout le désordre, oui, à partir de quoi elle peut s'autoriser elle-même de tous les désordres. Mais, donc ce qu'elle cherche à atteindre, ce qu'il ne faut pas contester, c'est son image phallicisée. C'est exactement la même chose. Donc elle situe Lacan là, en idéal du moi, celui qui maintient l'ordre. Mais ce qu'elle cherche à atteindre et qu'il ne faut surtout pas contester, c'est son image phallicisée. Elle est celle qui a les plus beaux seins de la ville. Et donc, C'est ça ce vers quoi elle tend dans son existence, c'est à, comment vais-je dire, à se confondre avec cette image phallicisée d'une femme qui a les plus beaux seins de la ville. Et elle situe Lacan là. Ce qui finalement lui permet de ne pas être malgré tout en position de petit A pour un homme. Ça, c'était lui. Elle n'est pas dans le rapport au désir, cette femme. Elle est aussi dans le rapport à son image, strictement centrée sur ses besoins libidinaux. C'est ce que dit Lacan. Donc, voilà, je ne sais pas si à partir de ces exemples cliniques, c'est déjà un peu plus clair. Alors, maintenant ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, ça va venir toujours, ça va toujours tourner autour du même point, idéal du moi, IDEA, petit a, bon. Alors j'ai pensé que c'était utile de reprendre l'expérience de physique, l'illusion du vase renversé, auquel Lacan se réfère quand même pas mal de fois dans son enseignement, et il s'y réfère dans le deuxième chapitre, donc dans le chapitre 24. Donc il se sert de cette expérience de physique pour métaphoriser ce qu'il veut nous faire entrevoir. Alors je vais prendre un petit peu de temps je vais dessiner ça au tableau. Pas si attendez, je les ai avec. Oui. Voilà. Vous trouvez ces expériences aussi bien développées dans le séminaire 1, notamment à la page 92 et à la page 160 dans le séminaire 1. Alors, l'expérience du bouquet renversé, vous voyez bien si j'écris là, ça va ? Donc, il y en a deux. Il y a une première expérience avec un miroir concave. Donc, vous avez ici un support. Vous avez des fleurs. Un bouquet de fleurs, et sur le support vous avez un vase. Et vous placez l'œil de l'observateur, bon, quelque part par là. Et en fait, par un jeu par le jeu de miroir, ce qui va se passer, c'est quelque chose comme ça. C'est que, donc c'est une illusion, c'est-à-dire que l'observateur qui est là va apercevoir une illusion qui est une image réelle. Une image réelle. Pourquoi réelle ? Parce que elle apparaît dans le champ de la réalité. Elle n'apparaît pas, cette image des fleurs, cette illusion, dans un espace virtuel. C'est pour ça que Lacan parle d'image réelle. Et dans le fond, il essaye de nous introduire, avec ses expériences, à nous introduire à la distinction entre le réel et l'imaginaire, et le symbolique. Ce que les analystes qui l'ont précédé ne faisaient pas cette distinction. Donc il dit là, dans ces pages, qu'il y a une confusion entre le moi idéal et l'idéal du moi, justement parce que les analystes ne faisaient pas cette distinction entre l'imaginaire et le réel. Et donc, ces petits schémas optiques nous permettent vraiment de visualiser un peu la distinction entre une image réelle, enfin entre le réel et l'imaginaire. Bon, donc, c'est dans l'espace réel qu'apparaît cette image réelle. Bon, alors, pour ce chapitre-ci, Lacan va un petit peu modifier l'expérience pour des raisons métaphoriques. C'est-à-dire que... Bon, alors je vais faire le dessin où ça... Je peux effacer ? Oui ? Je vais le faire là. Ou je le fais là ? Ah, il y a un deuxième tableau. Parfait. Voilà. Alors... C'est le même point de départ. Alors, le support. Alors là, Lacan va plutôt mettre le vase sous le support et le bouquet au-dessus. Et il va, si vous voulez, introduire ici un miroir plan. Et donc, il va situer... Donc, si vous voulez, si l'observateur se trouve ici, si l'œil se trouve là, et qu'il n'y a pas de miroir plan, ben, il ne verra pas l'illusion. Il ne pourra pas avoir l'illusion, il ne pourra pas apercevoir le vase là. Vous voyez, si cet œil-là ne verra que les fleurs. L'idée de Lacan, parce que Lacan se sert d'une expérience de physique, mais Lacan... remarque que si on met le miroir plan là, un œil qui ne peut pas apercevoir l'illusion du fait de sa position, il faut qu'il se trouve de l'autre côté pour voir l'illusion, eh bien avec le miroir plan, il pourra voir l'illusion par une série de jeux de miroirs. Alors, comment ça fonctionne ? Attendez, hein, parce que là... Donc, c'est un miroir plan. Donc, nous avons ici l'espace virtuel et là, l'espace réel. Donc, ici, on va voir l'image du support. Voilà. L'image des fleurs. OK. Et, en fait... Alors, il faut que j'essaye de faire ça un peu convenablement parce que c'est pas évident. Bon, comme ça... Attendez, ici, nous avons ça comme ça. Bon, soyez indulgents pour les traits. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous. L'essentiel, c'est qu'on comprenne. Donc, avec le miroir concave, le vase va venir... Il y a un rayon lumineux qui va venir ici, le vase va venir se reprojeter sur le miroir concave qui va venir... Et alors, ceci, attendez, hein, et ceci, normalement, va venir là. Là, là, et là. Et alors, voilà. Attendez, hein, parce qu'il faut que les traits, le sujet... Je crois que je me suis gourée. Oui. Ça, c'est pas juste, en fait. C'est bon. Et alors... ce trait-ci, normalement, ça doit être comme ça. Je crois que c'est plus ou moins ça. Bon, je me suis peut-être un petit peu gourée dans les lignes, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, ce que Lacan veut nous dire, c'est que l'observateur peut apercevoir l'illusion, ici c'est pas du bouquet renversé, mais c'est du vase renversé dans le miroir, et aussi dans l'espace réel. Donc il peut l'apercevoir comme image réelle, mais aussi comme image virtuelle. Alors, qu'est-ce qui est important à situer dans ce dessin encore ? Lacan, donc c'est métaphorique, donc vous ne devez pas trop vous faire attention aux lignes, c'est métaphorique. Lacan nomme le miroir plan grand A pour métaphoriser le grand autre. L'image ici des fleurs qui sont entourées par l'image réelle du vase, Lacan va le nommer IDEA, donc image IDEA, moi idéal en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à indiquer ? Le sujet barré, il le situe là. Ici, il met les signifiants S identificatoire et grand I l'identification. Voilà. Pourquoi il amène ce schéma optique maintenant, c'est pour, je pense, insister sur la nécessité du grand autre pour que le sujet puisse apercevoir IDEA, le moi idéal. Alors, je vais essayer de suivre un peu le développement et d'avancer parce que je vois que... Alors, dans l'article intitulé « Transfert et amour » auquel Lacan se réfère, qui est un article dont il ne dit pas les auteurs, du moins je ne pense pas, qui n'est pas de Freud. Il dit les auteurs plutôt. Après, bon ben. Dans cet article, Lacan s'intéresse à la question qu'il pose, donc ses auteurs, sur l'origine de l'idéal du moi. Alors, qu'est-ce qu'ils élaborent ? L'idéal du moi est une création de la pulsion de mort, disent-ils. Si on part de la notion du narcissisme parfait quant à l'investissement libidinal, si l'on conçoit, disent-ils, que l'objet primordial est inclus par le sujet dans la sphère narcissique, ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'est-ce qui pourrait entraîner une sortie subjective de cette monade primitive, de cette coalescence entre le sujet et l'objet. Qu'est-ce qui fait qu'on sort du narcissisme primordial ? C'est leur question. Elle est impossible, disent-ils, sauf si on inclut la puissance de la pulsion de mort. Donc pour eux, ce serait la pulsion de mort qui forcerait le sujet à sortir de son narcissisme, de son rapport à l'objet. Donc la question qu'il formule autrement, est-ce l'instinct de destruction qui nous permet de devenir au contact de quelque objet que ce soit? D'ailleurs, si vous lisez Winnicott, c'est ça. Pour lire Winnicott, moi je trouve que il n'arrête pas de dire ça, que c'est que l'objet se constitue par la pulsion de destruction. Alors Lacan, il ne contredit pas ça. Il dit, c'est peut-être bien en effet dans un moment d'agression que se place la différenciation, sinon de tout objet, du moins d'un objet hautement significatif. D'ailleurs, comme je parlais de Winnicott, quand même, Lacan s'est vraiment appuyé sur Winnicott pour élaborer son objet A. Donc là, ça, il ne contredit pas. Alors, il continue donc la lecture de cet article. Et il dit donc, dès que le conflit aura éclaté, donc le conflit, l'objet sera donc extériorisé, eh bien, l'objet, une fois extériorisé, pourra être introjecté. Alors, ces auteurs s'appuient sur Freud, qui a développé aussi que c'est dans la mesure où cet objet, le père par exemple, aura été intériorisé, qu'il constituera le surmoi. Du fait qu'il est introjecté, il entre dans une sphère qui est de ce seul fait narcissisé et objet d'investissement libidinal pour le sujet. Donc vous voyez, dans un premier temps, il y a le narcissisme, et puis sorti du narcissisme par la pulsion de destruction, constitution de l'objet et constitution du surmoi, de l'idéal du moi, parce que les auteurs mettent sur le même pied surmoi et idéal du moi. Alors, et puis après, hop, introjection de l'idéal du moi. Alors, donc, introjection de l'idéal du moi et investissement libidinal par le sujet, donc de l'idéal du moi qui est intériorisé. Car, nous dit Lacan, il est plus aisé de se faire aimer de l'idéal du moi que de l'objet qui a été à un moment son original. Mais tout introjecté qu'il soit, il continue de constituer une instance incommode. Bon, et après, ça continue. L'idéal du moi peut ensuite être reprojecté sur un objet. Donc, vous voyez, il est introjecté, puis reprojeté sur un objet. Et si ce dernier vient à vous être favorable, à vous regarder d'un bon œil, il sera pour vous objet d'investissement amoureux au premier chef. Donc ça, c'est la lecture que Lacan fait de ce que développent les auteurs dans cet article « Transfert et amour ». Alors, je passe vite à ce que Lacan va élaborer. Donc, le schéma optique, comme je l'ai dit, amené par Lacan, a en effet l'intérêt d'introduire la fonction du grand autre, pour autant que cette fonction doit être impliquée dans les élaborations du narcissisme, respectivement connotée comme idéal du moi ou moi idéal. Hein? Donc ça, je vous ai déjà dit, c'est parce que ces auteurs ne prennent pas en compte le symbolique, le grand autre, qu'il y a une confusion ou un glissement de l'idéal du moi vers le moi idéal, ou une confusion entre les deux. Voilà. Alors, Lacan va s'appuyer sur l'exemple bien connu du geste de l'enfant devant le miroir. L'enfant confronté à son image. Il nous dit qu'il faut donner toute son importance à ce geste de la tête de l'enfant qui même, après avoir été captivé par les premières ébauches de jeu qu'il fait devant sa propre image, donc l'enfant qui se regarde dans le miroir, se retourne vers l'adulte qui le porte, sans que l'on puisse dire sans doute ce qu'il en attend, si ce n'est de l'ordre d'un accord ou d'un témoignage. Mais, nous dit Lacan, la référence à l'autre vient jouer là une fonction essentielle. Donc ce n'est pas forcer cette fonction, nous dit Lacan, que de mettre ainsi en place ce qui s'attachera respectivement au moi idéal et à l'idéal du moi dans la suite du développement du sujet. Alors, qu'est-ce qui peut venir de cet autre vers lequel se retourne l'enfant ? Lacan nous dit, c'est un signe. C'est le signe de l'image de A, de cette image spéculaire, désirable et destructrice à la fois. Donc il insiste sur le signe, c'est pas un signifiant, c'est un signe. Signe d'une image. Donc, dans cette petite séquence de l'enfant au miroir, de l'enfant porté par l'adulte au miroir, nous apparaît, nous dit Lacan, le caractère antagoniste du moi idéal. Dans cette situation spéculaire, se dédouble au niveau de l'autre, donc au niveau de l'adulte qui regarde l'enfant au miroir, il se dédouble le moi désiré et le moi authentique. C'est le moi idéal que l'authentique, que moi, est appelé à devenir ou à venir. Et ce sera à travers l'évolution que l'authentique moi viendra au jour et qu'il sera cette fois aimé malgré tout, alors j'aime bien, malgré qu'il ne soit pas la perfection. Voilà. Voilà vers quoi tend l'enfant. On peut peut-être allumer parce qu'il me semble qu'il fait sombre. Alors, donc voilà pour le moi idéal, le moi désiré et le moi authentique de l'enfant la tension, l'oscillation pathétique, comme dit Lacan, entre les deux. Alors, quelle est la fonction de l'idéal du moi, le grand autre ? Eh bien, l'autre est le lieu d'où se constitue la perpétuelle référence du moi dans son oscillation pathétique à cette image qui s'offre à lui et à quoi il s'identifie. Voilà, le moi ne se présente et ne se soutient qu'à partir du regard de l'autre. Voilà. Voilà en quoi l'élaboration de Lacan diffère de ceux qui l'ont précédé. Voilà, je vais passer là-dessus. Voilà, il s'appuie donc Lacan sur ce qu'articule Freud à propos de l'identification. Freud distingue trois types d'identification. Et donc, la première identification qui est l'identification au père, la seconde à l'objet d'amour qui se refuse, la troisième c'est l'identification hystérique, je ne vais pas en parler. Et Freud dit que ces identifications se font toujours par un seul trait, un trait unaire. Un seul trait, ce n'est pas un signifiant, c'est un signe. Pourquoi ? Parce que pour qu'il soit insignifiant, il faut qu'il s'articule à d'autres signifiants. Et ici, ça s'articule à rien. Ça s'articule juste au signe donné par l'autre, à l'assentiment de l'autre, à ce que l'enfant peut lire chez l'autre concernant l'image qu'il donne. C'est un signe. Ce signe a un caractère ponctuel. Voilà. Voilà, ça je vais passer, c'est parce qu'il faut que j'avance un peu. Donc le regard de l'autre qui, entre les deux frères jumeaux, ennemis du moi authentique et de l'image du petit autre spéculaire, c'est ce regard qui peut à tout instant faire basculer la préférence. C'est important, c'est vraiment très clinique ça, parce qu'il y a des parents qui, peut dire enfin on entend ça tout le temps, qui ne supportent pas le fait que l'enfant ne soit pas parfait, enfin, le point granti du trait unique, ce signe de l'assentiment de l'autre, du choix d'amour sur lequel le sujet peut opérer. Il y a donc lieu de distinguer radicalement l'idéal du moi, l'introjection symbolique, et le moi idéal, projection imaginaire. Ça va? C'est clair? Alors, je suis toujours le fil de Lacan, je vais essayer quand même d'avancer pour arriver au bout. Lacan, après avoir développé ça, revient sur la métaphore du désirant. Je suppose que là, vous en avez déjà entendu beaucoup parler. Pourquoi il revient sur la métaphore du désirant? Parce qu'il suit son fil, qui est sa question de la place que doit occuper l'analyste dans le transfert. Alors, je vous rappelle, je suppose que vous avez déjà vu ça en long et en large, que la signification de l'amour surgit lorsque le désirant se substitue au désiré. Donc, je vais quand même reprendre ça. Je vais écrire ça là. Donc, vous avez ici l'aimant ou le désirant qui s'adresse au désiré, d'accord, ou à l'aimé. Alors, la signification de l'amour surgit quand? Eh bien, quand au désiré se substitue le désirant. C'est, vous vous rappelez au début du séminaire, la main tendue vers la pomme et de la pomme, il y a une main qui surgit. Ça, c'est la signification de l'amour. C'est que quand on obtient que de l'aimant qu'il le retour, qu'il vous désire, là surgit la signification de l'amour. Donc, Lacan pose la question, qu'est-ce qui est désiré là? Qu'est-ce qu'il désire celui-là? Eh bien, c'est le désirant dans l'autre. C'est le désirant dans l'autre. Or, nous dit Lacan, donc là je suis, le fil. Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. Soit son manque, soit son désir. Ici, s'il désire, c'est qu'il manque. S'il désire en retour de cette demande, de ce désir-là, c'est qu'il manque. Lui, il manque, hop, c'est donner son manque. Alors, c'est pourquoi, nous dit Lacan, il est bien difficile aux riches, donc à celui qui possède, d'aimer. Alors là, on rejoint un peu le développement d'Anne Cosin tout à l'heure. C'est-à-dire, car en réponse à la demande, qui est demande d'amour ou demande de désir, le riche doit vraiment refuser de donner ce qu'il a. Puisque sinon, il ne se constitue pas comme désirant. C'est difficile pour lui d'être aimant. Il a, donc il donne, il bouche. Il vient boucher ici. Donc, le riche, pour de désirer devenir désirant, il doit refuser de donner ce qu'il a. Et c'est extrêmement compliqué. Alors, Lacan fait référence à un livre, La femme pauvre, de je ne sais plus qui, en fait. Bref. Et il fait une petite note sur la femme, mais il ne développe pas. Il dit que la femme est très souvent en place, justement, non pas de femme pauvre, mais de femme riche. Qu'elle a aussi beaucoup de mal à passer là. Et le sein aussi. Le sein, c'est un petit développement clinique, mais je trouve ça intéressant. Pour la femme, on ne peut pas développer, mais ça pourrait l'être. Il le dit lui-même, il faudrait faire un retour sur la sexualité féminine. En tant que finalement la femme, elle se satisfait de la privation. Donc elle ne manque de rien d'une certaine façon. Elle a beaucoup de mal à passer en position de manquante, d'un petit quelque chose, d'une lichette. Non, elle se satisfait de la privation. Alors le saint, lui, il est riche aussi, puisque lui, dans le monde, rien ne l'intéresse. Le nom de sa jouissance, c'est Dieu. Et donc, il ne manque aussi de rien. Donc, il a beaucoup de mal à passer à cette place-là. Donc, oui, du saint, Lacan dira qu'il renonce aux petites choses pour posséder tout. Alors, il dit, ce n'est pas là qu'est appelé l'analyste. Il n'est pas donc on voit bien toute sa question, il n'est pas à la place du riche qui ne peut aimer ni désirer. Donc vous voyez, premier chapitre, l'analyste est parfois mis en position d'idéal du moi par l'analysé, mais, donc parfois il faut y rester, mais il ne faut pas s'en satisfaire. Deuxième chapitre, il dit ici que l'analyste n'est pas à la place de celui qui ne peut ni aimer ni désirer. Hein? Donc il n'est pas comme le saint. Il ne dira pas ça toujours, parce qu'à certains moments, il dira que l'analyste est un saint parce qu'il décharite, mais ça, ici, il ne dit pas ça. Il dit l'analyste n'est pas à la place de celui qui ne peut pas désirer, à la place du riche, du riche qui donne et qui ne peut pas désirer, du saint qui ne manque de rien. Bon, l'analyste ne manque pas de rien. Bon, alors je vais passer au troisième chapitre, parce qu'alors on va avancer sur cette question de la place de l'analyste. Je vais essayer, il me reste une demi-heure, c'est bon. Le troisième chapitre, c'est l'angoisse dans son rapport au désir. Alors, je voudrais bien arriver à ce que ça va aller. Lacan, dans ce chapitre, part d'une phrase de Freud au sujet de l'angoisse. Et il dit, donc, phrase que vous retrouvez dans Inhibition, symptômes et angoisse. Et Freud dit, le moi retire l'investissement préconscient de ce qui, dans la pulsion, est le représentant. Il dit que le représentant de la pulsion est à refouler et il se transforme en déplaisir et angoisse. Donc Lacan parle de cette phrase de Freud, donc il y a angoisse quand il y a désinvestissement du représentant de la pulsion. Alors Lacan va essayer d'avancer à partir de cette formule, de cette phrase. Et il nous dit que dans cette phrase, la formule du fantasme, donc S barré poinçon de A, le fantasme qui est le support du désir, la formule du fantasme est évoquée. Donc dans cette formule, on voit le rapport entre le sujet barré et l'objet du désir. Et ce rapport n'est pas un rapport simple. Pourquoi c'est pas un rapport simple ? Eh ben, c'est parce que il ne s'agit pas d'un sujet pensant. Donc S barré, c'est pas un sujet pensant dans un rapport de connaissance à l'objet. Je veux dire, S barré point son de A, c'est pas le sujet qui sait quel est l'objet qui va venir le compléter, justement. On est dans la méconnaissance et non pas dans la connaissance. Donc, la théorie du désir met en cause toute théorie de la connaissance. Ça a vraiment des implications vraiment terribles, ça. Hein? S barré poisson de A. Alors, que veut dire le désinvestissement de ce qui, dans la pulsion, est le représentant ? Lacan nous dit, cela veut dire que l'angoisse se produit quand l'investissement du petit A est reporté sur le sujet. Mais le sujet n'est pas saisissable. C'est une place. Et donc le sujet désirant n'est pas non plus saisissable. Le sujet désirant, c'est le sujet barré qui s'oriente vers le petit A. C'est une place. Alors, ce que nous dit Lacan, c'est que cette place du sujet désirant, elle peut être occupée par une image, idea, le moi idéal. C'est ce qu'exprime l'image réelle du vase dans l'illusion du vase renversé. Donc ça veut dire quoi ? Range-moi juste mon vêtement, il fique dans le fil. Ça veut dire quoi ? Ici, ça veut dire que la place du sujet désirant, qui est une place, elle peut être occupée, c'est là, elle peut être occupée par une image. Voilà, donc cette image vient se produire hein, de manière à faire semblant d'entourer la base des fleurs, la base des tiges florales qui symbolisent le petit A. C'est de cela qu'il s'agit dans l'image narcissique. C'est le sujet barré coopté au désir. Alors il dit que c'est à cette place-là que se produit le signal de l'angoisse. Alors, donc, voilà, Donc, c'est là que se produit le signal de l'angoisse. C'est là la place, c'est à cette place-là qu'on trouve, c'est la place du sujet c'est une place, c'est la place du sujet désirant qui peut être occupée par une image. Et c'est là que se produit aussi le signal de l'angoisse. Il nous dit plusieurs choses. Alors, il dit que ce n'est pas le défaut de l'image qui fait surgir l'angoisse. Hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le moi idéal qu'il y a de l'angoisse. Non. Ce n'est pas non plus le fait qu'il y ait cette image qui produit l'angoisse. Mais qu'est-ce qui produit l'angoisse ? Eh bien, nous dit Lacan, c'est le rapport spéculaire. C'est le rapport ici entre les deux. C'est ça qui produit l'angoisse. Le rapport originaire du sujet à l'image spéculaire qui est un rapport d'agressivité. C'est ça qui produit l'angoisse. Alors, une petite note de Lacan, qui est quand même cliniquement intéressante, c'est que pour sortir de ce rapport spéculaire qui suscite l'angoisse, et l'agressivité. Lacan indique qu'il s'agit de s'orienter dans la relation temporelle. Donc là, c'est un schéma optique, c'est statique, c'est topique, il n'y a pas de temporalité. Il dit, pour sortir de l'angoisse, eh bien, il s'agit de s'orienter ou d'orienter le patient dans le sens de la relation temporelle, et c'est là qu'il parle de la hâte. Et il dit, la hâte, cette façon dont l'homme se précipite dans sa ressemblance à l'homme. Donc, le fait de se mettre en mouvement pour devenir cet autre désiré, eh bien, permet de sortir de l'angoisse. Il a cette formule, j'ai hâte de me voir semblable à lui. Alors, que nous dit-il encore de l'angoisse? Donc, il nous a situé la place de l'angoisse et le rapport spéculaire qui fait surgir l'angoisse. Mais il dit aussi que l'angoisse est un mode radical sous lequel le sujet continue de soutenir le rapport au désir. Alors, que nous dit-il? Dans les troupeaux, alors il revient avec la métaphore des troupeaux. Dans les troupeaux d'animaux, lorsque se présente un ennemi, le veilleur, le plus malin parmi les bêtes du troupeau, est là pour sentir l'ennemi, flairer et pour donner le signal. Et hop, cela ne traîne pas, tout le monde décampe dans la même direction. Il en va de même du signal de l'angoisse. Le signal de l'angoisse, c'est de l'autre, de l'alter ego, de l'autre qui constitue son moi, que le sujet peut recevoir le signal. Alors, Lacan nous met en garde là contre l'altruisme. Aime ton prochain comme toi-même. Il nous dit que celui qu'étouffe l'altruisme, c'est l'obsessionnel. Ce à quoi il ne veut pas toucher dans l'image de l'autre, c'est sa propre image. Car ce qui surgirait si cette image était détruite, ce serait bel et bien l'angoisse. Et l'angoisse, devant quoi? Pas devant l'image de l'autre où il se mire. Alors il donne encore un exemple, la pauvre gosse dont il a pitié, celle qu'il aime, mais devant l'objet de son désir. Donc la pauvre gosse en tant que petit a. Donc l'altruisme, aime ton prochain comme toi-même, surtout ne fais pas du mal au petit autre. Aime-le comme toi-même, protège-le, ne le détruis pas, maintiens-le toujours idéalisé, moi idéal. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? La pauvre gosse dont il a pitié, un peu la femme idéalisée. Ça protège, donc de maintenir cette image, ça protège contre l'angoisse, contre le surgissement de quoi? Du petit a. L'objet de son désir. Alors, donc, Freud souligne aussi dans l'angoisse son caractère d'attente. Euh, l'attente, donc la direction vers la place de l'objet du désir, place où il fait défaut. Attendez, ça il faut que je... Donc ce qui fait surgir l'angoisse, c'est le surgissement du petit a dans le rapport à l'autre, spéculaire. Alors, il arrive parfois donc que par des mécanismes de défense, de la résistance ou l'annulation de l'objet, l'objet disparaît. Donc, plus d'objets de désir dans le champ de la réalité. Et donc, le sujet se met à attendre. Attendre l'objet du désir, l'attente. Plus tard, ça viendra plus tard, par exemple. Toujours remettre à plus tard. Et il dit que l'attente, qui est quand même moins douloureuse que l'angoisse, ça permet de maintenir un rapport au désir, sans avoir à supporter le rapport à l'objet du désir, sans avoir à supporter l'angoisse. Voilà. Alors, il y a donc plusieurs modalités, si vous voulez, de maintenir le rapport au désir sans avoir à traverser l'angoisse. C'est le désir insatisfait de l'hystérie, le désir impossible de l'obsessionnel et la phobie. La phobie qui cerne une fonction manquante, déficiente, en tant que la phobie fait surgir le père carent. Donc, désir insatisfait, donc c'est jamais le bon objet. Donc, on n'est jamais confronté à l'objet du désir, c'est jamais le bon. Désir impossible, c'est une façon aussi d'éviter le rapport à l'objet et le surgissement de l'angoisse. Et la phobie, c'est un traitement de l'angoisse quand même. Mais qui fait surgir une fonction manquante, le père en tant qu'il est carent. Alors encore une petite remarque de Lacan sur l'angoisse qui est quand même très importante, c'est que l'angoisse, à la fois ça se transmet et ça ne se transmet pas. Alors, l'angoisse n'est donc pas uniquement interne au sujet, puisqu'on voit bien avec ce que nous a développé Lacan que ce qui fait surgir l'angoisse, c'est quand même le rapport à l'autre spéculaire. Dans la mesure où il est détruit, et que c'est de là que surgit le petit a. Donc l'angoisse n'est pas uniquement interne au sujet. Alors Lacan nous dit, le propre du névrosé est d'aller la chercher à la louche, à droite ou à gauche, chez tel ou tel des grands tas auxquels il a affaire. Alors, ce qu'il nous dit, Lacan, par rapport à ça, c'est que l'analyste doit être au clair avec son désir, justement pour ne pas transmettre un signal d'angoisse chez son analysé ou même l'angoisse elle-même. Donc l'analyste doit refuser au sujet son angoisse et laisser nu la place où il est appelé comme autre à donner le signal d'angoisse. C'est-à-dire que ça c'est vraiment le point vraiment important des trois séances. C'est quand l'analyste qui est aimé, désiré, est appelé à cette place de désirant, il a à s'abstraire à s'escamoter dans le rapport à l'autre pour ne pas faire surgir, enfin transmettre son angoisse à l'analyser. Je vais peut-être essayer de le dire autrement pour être plus clair. Donc l'analyste refuse au sujet son angoisse et ne donne pas le signal d'angoisse. Et donc toute l'importance des contrôles. Ça, c'est vraiment sur ce point qu'agissent les contrôles. Alors, l'analyste, à quelle place le situe Lacan ? Eh bien, il la situe à la place du désirant pur, c'est-à-dire celui qui s'abstrait d'aucune supposition d'être désirable. Alors, pour nous faire encore mieux comprendre ce point-là, qui est le point, je pense, plus l'essentiel, il rappelle la position de Socrate lorsqu'Alcibiade lui fait sa déclaration, une déclaration d'amour, si je ne me trompe, je n'ai pas tout relu, mais bon. Eh bien, Socrate ne répond pas à la place du désiré. Donc, on situe... Alcibiade est là, il s'adresse à Socrate, rappelez-vous. Socrate, il ne répond pas de cette place-là. Il lui dit, oui, mais tout ce que tu me dis là, c'est pas à moi que tu le dis, c'est à Agathon. Ça ne me concerne pas. Il s'abstrait. Donc, ça, c'est aussi pour nous indiquer la place de l'analyste. C'est-à-dire que là où il est convoqué comme désiré, et donc appelé, si vous voulez, à être désirable pour l'autre, l'analyste n'y est pas. Et donc, il ne va pas se mettre en position de désirant de l'analyser. C'est d'un autre type de désir, le désir de l'analyste. C'est un désir pur. Bon. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le désir... Alors, une autre petite façon de nous faire apercevoir ce que c'est que ce désir de l'analyste, c'est un désir qui ne s'articule pas à l'autre. Et ne s'articulant pas à l'autre, le désir de l'analyste ne passe pas par le signifiant ou par la demande, qui est toujours une demande d'amour. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais bon, je trouve que c'est... Voilà. Il évoque aussi la prière de Priam. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Donc, Priam, qui est le père d'Hector, s'adresse à Achille. Pour lui demander le corps de son fils qu'Achille a tué. Et en fait, je peux simplement lire la prière. Priam s'arrête près d'Achille, il lui embrasse les genoux, il lui baisse les mains, ses mains terribles, meurtrières, qui lui ont tué tant de fils. Et il dit, donc Priam dit à Achille, « Souviens-toi de ton père, Achille, semblable aux dieux. Il est tout comme moi au seuil maudit de la vieillesse. » Bon, j'arrête là. Le plus important, ce que nous dit Lacan, c'est que Priam demande quelque chose à Achille et que dans cette prière, il s'articule d'emblée, donc il est le père d'Hector, et il s'articule d'emblée au père d'Achille. Hein? Achille, c'est quoi la formule ? Souviens-toi de ton père, Achille, semblable aux dieux. Il est tout comme moi, tout comme moi, au seuil maudit de la vieillesse. Et donc, Priam dédouble son personnage d'un autre. Donc, c'est Priam qui prie, mais sa prière passe par un autre, par un autre père, le père d'Achille. Et donc, le désirant, donc tout ça, là, quand on passe par tous ces petits détours pour nous faire entrevoir que la place de l'analyse, qui est une place de désirant pur, c'est une place de désirant qui ne s'articule pas à l'autre et qui ne passe pas par la demande d'amour. Voilà. Alors, il y a une petite formule pour terminer, vraiment pour terminer, dans ce chapitre, ce dernier chapitre, l'appui trouvé dans le désir. La phrase, c'est celle-ci. L'angoisse est un rapport de soutien au désir car l'objet manque. À l'envers, le désir est un remède à l'angoisse. Donc le désir est un remède à l'angoisse. L'appui trouvé dans le désir, si incommode soit-il avec toute sa traîne de culpabilité, est tout de même beaucoup plus aisé à tenir que la position d'angoisse. De sorte que, qu'en somme, pour quelqu'un d'un peu astucieux et expérimenté, il convient toujours d'avoir à sa portée un petit désir bien fourni pour ne pas être exposé à mettre en jeu dans l'analyse un quantum d'angoisse qui ne serait pas opportun. Bon, ben voilà, je vais arrêter là-dessus.
Merci beaucoup pour ce parcours des trois chapitres qui étaient finalement fort denses dans tout ce qu'ils nous apportent. Alors, je vais essayer de repartir sur deux petites questions peut-être ou remarques, le temps de vous laisser la réflexion à vos questions. Quand vous avez parlé des trois types différents d'identification que Freud note au père, à l'objet d'amour qui se refuse, ou bien l'identification hystérique, et au fait qu'il souligne que ça se fait toujours par un trait lunaire, je me dis au fond, c'est peut-être une façon de... Enfin, c'est une question que je pose là, une façon de montrer que dans une fratrie, par exemple... l'identification et donc le rapport aux parents est chaque fois différent entre les frères et sœurs d'une même fratrie. C'est une autre façon de le voir. Souvent, on entend des parents qui disent « je les ai pourtant élevés de la même façon ». On voit bien que ce n'est pas de ça dont il est question. Au fond, je me disais que ça éclairait peut-être un point de vue, un regard clinique sur... sur certaines situations. Bon, évidemment, il y a aussi toute la question, finalement, de la chute des identifications dans le travail analytique. Mais bon, ça, c'est plus du processus de la cure, si je peux dire. Et puis... à la fin de votre propos, lorsque vous parlez du désir de l'analyste comme désir pur et qui ne passe pas par une demande d'amour, je me disais au fond, comment est-ce qu'on peut articuler ça à ce qu'on appellerait, enfin je suis peut-être maladroite en le disant, mais au fond le transfert de l'analyste vers l'école justement, vers ce groupe des analystes tous tout différents, et vers l'école, si vous pouviez en dire un mot. Voilà.
C'est quoi la question? Excusez-moi, la dernière, la première. La chute des identifications, oui, Lacan évoque ça dans ses chapitres en disant quand même que plus on avance dans l'analyse, plus le sujet a affaire à l'idéal du moi. Il le dit, je ne saurais pas le retrouver là maintenant. Et donc de moins en moins au moins idéal. Donc ça oui. La question par rapport au groupe d'analystes, je ne sais plus la question de départ. C'est vrai que Lacan en parle dans les trois chapitres, mais je ne sais plus ce que vous me posez comme question. Mais
donc au fond, de dire que si le désir de l'analyste est un désir pur et qui ne passe pas par une demande d'amour, il y a quand même la question du transfert vers l'école qui au fond soutient ce désir d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Comment est-ce que vous l'articuleriez?
En effet, j'ai essayé de le dire un petit peu au début, c'est que l'analyste n'est pas seul, et en même temps, les groupes d'analystes, ce ne sont pas des troupeaux. Voilà. Enfin, les groupes d'analystes tels, le groupe, l'école, en tant que la pense Lacan et la pense à sa suite Jacques Alain Miller, c'est pas un troupeau. Puisque l'acte, tiens, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est dans le texte, l'acte va contre le troupeau. Et l'acte fait surgir toujours l'agressivité. Tout acte fait surgir l'agressivité du petit autre. Il faudrait lire un texte de Jacques Alain Miller là-dessus, puisque Jacques Alain Miller a fait des considérations sur l'école en tant que groupe, mais pas un troupeau. Je ne sais plus.
Est-ce que, par exemple, on pourrait dire que cette fameuse phrase « l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres », c'est-à-dire cet acte, au fond, à un moment de s'autoriser être analyste, est toujours tellement dans un lien singulier au sujet que c'est impossible qu'il y ait des petits autres tous les mêmes.
Il n'y a pas d'acte, c'est toujours singulier. Tout acte analytique est singulier. Et donc, il y a une référence aux autres analystes, parce que soi-même, on est en analyse, parce que soi-même, on va en contrôle. Donc, ce n'est pas sans les autres. Mais l'acte analytique, c'est quand même toujours un lieu où on est extrêmement seul. Voilà, c'est dans la solitude, l'acte, c'est dans la solitude.
Voilà. Et ça explique aussi la contingence du lien analyste-analysant, c'est-à-dire que l'analyse ne sera pas la même avec tel analyste ou tel autre.
Ah non, ce sera différent. En effet.
Est-ce que vous avez des questions?
J'ai un petit peu fatigué tout le monde. Ben oui, ben moi je le situerais là. Hein. C'est lui, c'est le regard de l'autre. Je le situerais là. Pourquoi?
Vous. Parce que finalement, dans ces chapitres, d'accord, quand même essaye de faire la part des choses et d'expliquer un petit peu la différence entre le moi idéal et l'idéal du moi, justement par ce schéma. Et alors, c'est vrai que ma question,
je l'ai.
Vraiment, se dit, mais
où est là l'idéal du moi? Oui, c'est ça. Effectivement. Oui, moi je le situerais là, mais en même temps on peut le situer. Non, je le situerais là quand même. Ouais. Parce que dans le schéma, Lacan écrit grand I là. Mais il n'écrit pas I grand I de A. Et comme dans tout le texte, il fait référence au regard et à l'œil de l'autre, moi je le mettrai là.
Merci. Une autre question ?
Lacan dit bien que l'idéal du moi passe par le grand autre, passe par le miroir, donc ça doit être reflété sur le miroir.
Oui.
Et moi, c'est de ce côté-là.
Ce côté-là ?
Non.
De ce côté-là ?
Parce que de ce côté-là, c'est comme si le miroir flanc n'existait pas.
Oui. Mais il faut le miroir pour que se constitue l'idéal du moi. Voilà. Et le moi idéal aussi. Il faut le miroir plan, il faut le symbolique. D'accord ? Oui. Donc c'est pas sans le miroir que se constitue. Mais je le mettrai quand même là. Oui, c'est juste.
Bon. Voilà. Bien, merci beaucoup Véronique Robert. Et on se retrouve donc début mai pour la dernière conférence avec Bernard Sénat. Merci.